Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Aujourd'hui, je me propose de vous parler d'une constellation qui est particulièrement visible, surtout au printemps, mais aussi jusqu'en début d'été. C'est une constellation qui est dans une région du ciel très riche en étoiles brillantes et en constellations. Une constellation qui représente un héros grec. Le héros grec qui tua la Méduse et sauva Andromède, vous l'avez ? Mais oui, il s'agit de Persée. Sa position peut être repérée en prenant l'alignement qui part du grand carré de Pégase, remonte le long de la diagonale d'Andromède, en passant par ses deux étoiles les plus brillantes, jusqu'à Algol de Persée et Capella du Cocher. Inversement, on peut partir de Capella, qui est l'étoile la plus brillante de la région, et repérer ses voisines, Algol et Mirfak, en direction de l'ouest. Donc Algol et Mirfak sont respectivement bêta et alpha de Persée. On peut également se repérer par rapport à Cassiopée, en suivant l'alignement de la barre médiane de son W en direction du sud-est, et on tombe alors sur Mirfak. On peut aussi remonter l'alignement qui part de Rigel dans le pied d'Orion, passe par Aldébaran du Taureau, une autre étoile très lumineuse, et on tombe alors sur Algol, avant de rejoindre Cassiopée, dans l'axe du bras droit de son W. Voilà, avec toutes ces différentes méthodes, j'espère que vous arriverez à repérer Persée. Persée, c'est une constellation placée dans un environnement très riche. Elle se trouve en effet sur la Voie lactée. Ce qui veut dire que quand on regarde dans la direction du ciel désignée par Persée, on regarde vers notre propre galaxie. Une grande quantité d'étoiles sont donc visibles. La constellation est bien entourée. Mais quand on regarde Persée, on regarde dans une zone plutôt peu dense de notre Voie lactée, car on regarde vers l'extérieur de notre galaxie. La Voie lactée, notre galaxie, contient 200 milliards d'étoiles. Ces étoiles sont organisées comme un disque. Elles tournent autour du centre galactique comme les planètes tournent autour du Soleil. Mais elles ne sont pas uniformément réparties dans ce disque. Il y a des bandes plus ou moins denses, un petit peu comme des bras qui s'enroulent autour du centre galactique. Plus on s'éloigne du centre galactique, plus ces bandes sont nettes, car séparées par des zones de matière interstellaire constituées de gaz et de poussière. On dit que notre galaxie est spirale. Le Soleil et le système solaire, c'est-à-dire nous, sommes situés plutôt à la périphérie de notre galaxie. Alors quand on la regarde, quand on regarde la Voie lactée, on voit des zones plus ou moins denses en fonction de l'orientation où on regarde. Par exemple, quand on regarde vers la constellation du Sagittaire, on regarde vers le centre de notre galaxie, alors que quand on regarde vers Cassiopée, on regarde carrément vers l'extérieur. Il y a donc moins d'étoiles. Cassiopée semble être plus isolée. Revenons à Persée, notre héros du jour. La forme de la constellation n'est pas forcément très simple à repérer. Elle ressemble à une étoile à cinq branches. Les deux premières étoiles visibles sont Mirfak, Alpha Persei, qui marque le cou de Persée, et Algol, un peu plus au sud, qui marque son pied. On voit aussi rapidement apparaître Eta Perséide au sud et Gamma Persée au nord. Ça, c'est la pointe de son chapeau. L'étoile brillante, située au milieu du bras ouest, Delta Persei, est parfois considérée comme constituant l'épée de Persée. C'est la limite des constellations entre Persée et Andromède qui est très dentelée dans cette zone. La main de Persée semble presque saisir le pied d'Andromède et s'étend au-delà d'une zone qui appartient en fait à cette dernière. Persée est généralement dessinée en tenant dans sa main la tête de la Méduse. Celle-ci est représentée par Gorgona Secunda. Algol, bêta de Persée, et Gorgona Prima. Elles forment l'œil de la Gorgone. Attention à ne pas le regarder en face si vous ne voulez pas être changé en pierre. Ces quatre étoiles sont celles qui forment le pied immédiatement au sud d'Algol. Persée est donc le fils de Danaé, la fille du roi d'Argos. Ce dernier, averti par un oracle que son petit-fils le tuera, enferme sa fille dans une tour d'airain, ce qui n'empêche pas Zeus de la séduire sous forme d'une pluie d'or. Persée naît donc dans le secret. Il est révélé à son grand-père par ses cris. Il est alors enfermé dans un coffre avec sa mère et jeté dans les flots, qui le portent jusqu'à l'île de Séphiros. Tous deux sont accueillis par un pêcheur nommé Dictys, qui élève le garçon comme son fils. Devenu adulte, Persée se voit confier par Polydecte, le roi de l'île, la mission de tuer la gorgone Méduse, dont le regard pétrifie tous ceux qui l'atteignent. Persée est vainqueur de ce combat grâce aux armes magiques remises par Hermès et Athéna, en particulier un miroir grâce auquel il peut éviter de regarder la Méduse en face. Il passe sur le chemin du retour par l'Éthiopie, où il rencontre la princesse Andromède, qui doit être livrée à un monstre marin, en punition des paroles imprudentes de sa mère Cassiopée. Sortant la tête de Méduse de son sac, il affronte Cétus, le monstre marin. Il se trouve que c'est aussi le père de la Méduse, mais ça c'est sans doute une autre histoire. Persée délivre alors Andromède et l'épouse. C'est pour ça que les constellations de Persée et d'Andromède semblent se tenir la main. Si vous regardez vers Persée en fin d'été, il y a de fortes chances pour que vous voyez des étoiles filantes. En effet, c'est près de Gamma Persei que se retrouve le radiant des Perséides, un essaim de météorites qui provoque chaque année une pluie d'étoiles filantes aux alentours du 10-12 août. On les appelle aussi les larmes de la Saint-Laurent, dont la fête tombe le 10 août. Alors, qu'est-ce que c'est que ces étoiles filantes? Ces phénomènes lumineux très courts qui semblent zébrer le ciel. Une étoile filante, c'est un phénomène lumineux qui accompagne l'entrée dans l'atmosphère d'un corps, appelé météoride. Il s'agit d'un petit corps circulant dans l'espace, et lorsque son orbite croise celle de la Terre, la météoride va entrer dans l'atmosphère et être vaporisée entièrement en provoquant une traînée lumineuse. La météoride laisse derrière elle un sillage de gaz très chaud, ionisé et lumineux, que l'on nomme un plasma. Et c'est cette trace que l'on voit quelques instants dans le ciel. Contrairement à une image bien ancrée, cette traînée n'est pas due à la friction de la météorite sur l'atmosphère, mais plutôt à la compression de l'atmosphère en avant de la météoride. En effet, quand il entre dans l'atmosphère avec une vitesse supérieure à celle du son, un petit peu comme un avion supersonique, cela entraîne une surpression de l'atmosphère devant son nez. C'est ce phénomène qui est lumineux. La température peut monter à plusieurs milliers de degrés à la surface de l'objet. Alors quels sont ces petits cailloux qui illuminent nos ciels d'été et sont censés réaliser nos vœux? Principalement, ce sont des poussières ou des glaces qui ont été laissées dans le système solaire, sur l'orbite de la Terre, par des comètes. Les comètes, ce sont ces phénomènes majestueux qu'on a parfois la chance d'admirer pendant quelques jours, comme Neowise qu'on a pu admirer en juillet 2020, voire pendant plusieurs mois, comme la comète Hale-Bopp qui a été visible pendant près de 18 mois en 1997. J'en garde personnellement un souvenir très ému, admirant tous les soirs, en rentrant du lycée, ce trait dans le ciel en face de moi. La plus connue, certainement, c'est la comète de Halley qui revient tous les 74 ans au voisinage de la Terre, mais qui n'est pas très très spectaculaire. Les comètes, ce sont ces objets qui orbitent autour des étoiles, avec parfois des très grandes orbites. Elles sont constituées d'un noyau de glace et de poussière interstellaire. En gros, c'est de la neige sale. Et quand elles s'approchent du Soleil, la glace se met à fondre. Le noyau s'entoure alors d'une sorte de fine atmosphère brillante, constituée de gaz et de poussière qu'on appelle la chevelure ou coma, qui est souvent prolongée par deux traînées lumineuses composées également de gaz et de poussière. Ça s'appelle les queues. Il y a une queue de gaz ionisé et une queue de poussière, qui peuvent s'étendre sur plusieurs dizaines de millions de kilomètres. Et les poussières de la comète restent donc là. Elles ne suivent plus leur comète. Elles naviguent dans l'espace. Et c'est quand la Terre croise les nuages de ces poussières laissées par les comètes que ces poussières entrent dans l'atmosphère et forment des étoiles filantes. Les météorites peuvent aussi être des astéroïdes venant de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter, mais certaines viennent aussi de la Lune ou même de Mars. Dans ce cas-là, on a souvent des objets plus gros, dominant des phénomènes lumineux plus importants que l'on appelle des bolides, dont l'éclat semble aussi durer un petit peu plus longtemps dans le ciel. Un météorite peut se fragmenter, généralement en dessous de 50 km d'altitude, ou atteindre le sol. Il devient une ou plusieurs météorites. Les météorites sont donc bien plus que de simples roches. Âgées de plusieurs milliards d'années, elles renferment des indices précieux sur la formation et l'évolution de notre système solaire. Les scientifiques les étudient pour comprendre la composition chimique des astéroïdes, les conditions qui régnaient dans le système solaire primitif et même l'origine de la vie sur Terre. Les météorites lunaires, par exemple, nous ont donné des indices portant à croire que la Lune avait été formée des débris résultant d'un impact entre la Terre et un énorme astéroïde. Il existe trois principaux types de météorites. Les météorites pierreuses, les chondrites, les météorites ferreuses et des météorites mixtes qui mélangent la pierre et les métaux. Les chondrites sont les plus courantes. Elles contiennent des petites inclusions sphériques appelées les chondres, témoignant des premiers solides formés dans le système solaire. Les météorites ferreuses sont principalement composées de fer et de nickel. Chaque découverte de météorite est un événement excitant. Prenons l'exemple de la météorite d'Allende tombée au Mexique en 1969. Cette chondrite carbonée a fourni une mine d'informations, notamment des grains présolaires, des minéraux qui se sont formés avant même la naissance de notre Soleil. Plus récemment, la météorite de Chelyabinsk, qui a explosé au-dessus de la Russie en 2013, a rappelé au monde les impacts potentiels que ces objets pouvaient avoir sur notre planète. Les météorites ont également marqué l'histoire humaine. Dans l'Antiquité, elles étaient vénérées comme des objets sacrés, ou utilisées pour fabriquer des outils ou des armes. Certaines cultures considéraient les météorites comme des cadeaux des dieux, leur attribuant des pouvoirs mystiques. Aujourd'hui, la recherche des météorites, c'est une passion partagée par des scientifiques et des amateurs. Les déserts, les zones polaires, les plaines gelées sont des terrains de chasse idéaux où les météorites se détachent facilement du sol. Les expéditions sont régulièrement organisées pour découvrir et récupérer ces précieux fragments de l'espace. Vous le savez sûrement, il y a des moments plus propices que d'autres pour voir des étoiles filantes zébrer le ciel. Bah, la raison est simple, c'est que chaque année à la même période, la Terre va venir traverser des nuages de poussière laissés par des comètes. Et en les traversant, ces poussières vont former des étoiles filantes. Et à une même période, les étoiles filantes donneront l'impression de venir à peu près du même endroit. On appelle cette zone la zone de radiant. Les Perséides sont les seins de météorites dont le radiant semble sorti de la constellation de Persée. Elles sont issues des débris de la comète Swift-Tuttle. Cette comète a été découverte en 1862 par deux Américains, Swift et Tuttle. Elle a été revue proche de la Terre en 1992. Il est probable qu'elle ait été observée en 68 avant Jésus-Christ, en Chine et aussi en 188. Elle devrait repasser très très près de la Terre, ce qui fait craindre aux scientifiques une possible collision. En général, on peut observer avec ces fameuses Perséides une centaine d'étoiles filantes par heure, à partir du 20 juillet environ et jusqu'au 25 août, avec un maximum situé entre le 11 et le 15 août. La nuit la plus active des Perséides, c'est celle entre le 12 et le 13 août, de 2 à 5 heures du matin. C'est l'essaim d'étoiles filantes le plus spectaculaire et le plus populaire de l'année, étant donné qu'il se produit pour l'hémisphère nord lors de la période estivale. C'est quand même plus agréable d'attendre des étoiles filantes sous un ciel d'été que en plein hiver. Mais il existe beaucoup d'autres essaims. Les Orionides, par exemple, sont issues de la comète de Halley. Elles semblent venir de la constellation d'Orion, elles sont visibles en automne, leur maximum étant début novembre. Les Eta Aquariides sont visibles à chaque printemps. Elles sont aussi dues à la comète de Halley. Les Quarantides, elles, c'est entre le 1er et le 5 janvier. Elles semblent venir de la constellation du Bouvier. Elles s'appellent les Quadrantides, en souvenir de l'ancienne constellation du Cadran Mural qui se trouvait dans cette zone. Cet essaim peut donner jusqu'à 200 météorites à l'heure. Et cette année, nous croiserons aussi les Delta Aquarides. C'est aussi un nuage de poussière issu d'un comète. Ce brouillard que l'on nomme le Thor suit une orbite telle que la Terre les croise de temps en temps tous les 5 ans. Elles sont beaucoup moins nombreuses que ce que peuvent être les Perséides, mais elles ont le mérite d'exister. Il peut y avoir quelques étoiles filantes par heure. C'est pas énorme, mais on peut toujours en voir. Conjugué aux Perséides, puisqu'elles ont lieu à peu près à la même période, ça nous promet un très très beau spectacle cette année.